Alors, ce passage de l'évangile de Jean n'est pas très long, mais il partage des notions un peu difficiles. Qui est Jean ? Alors, ce texte que Léonore a lu est un texte, vous l'avez compris, de l'évangile de Jean. Et vous avez entendu, il raconte qu'un certain Jean voit venir Jésus vers lui et puis qu'il parle à son propos. D'après vous, les jeunes, est-ce que le Jean de l'évangile et celui qui parle ici est la même personne ? Oui ? Eh bien non. Dans le Nouveau Testament, non mais c'est difficile, hein, donc voilà. Dans le Nouveau Testament, nous rencontrons plusieurs Jean. Il y a l'évangéliste Jean qui nous offre le quatrième évangile. Alors on dit que celui-ci, c'est sûrement aussi l'auteur des trois lettres de Jean, dont vous lisez ici un verset de la première lettre, et même de l'Apocalypse. Et puis il y a Jean qui rencontre ici Jésus et que l'on surnomme Jean le Baptiste. Pourquoi ? Alors Jean-Baptiste est le fils de Zacharie et Élisabeth. Élisabeth, c'est une cousine de Marie. Marie, c'est la mère de Jésus, voilà. Et Jean-Baptiste, il va naître quelques mois avant Jésus. Zacharie et Élisabeth sont en couple âgés, sans enfants, quand Zacharie est visité par un ange. Est-ce que vous connaissez le nom de l'ange qui visite ? C'est des questions difficiles ce matin, mais l'année 2020, là on est vraiment motivés. Gabriel, bah bravo ! L'ange Gabriel, c'est le même ange qui rend visite à Joseph. Vous savez, Joseph, c'est qui ? Quand même. Donc c'est le même qui rend visite à Joseph pour lui dire « Ta femme va enfanter un enfant et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, Jésus. » Cet ange donc leur annonce la venue d'un fils qui s'appellera Jean et précédera la venue du Messie. Alors, qu'est-ce que le Messie ? C'est celui qui... Bravo ! Ils sont super forts. Donc quelqu'un a dit « c'est celui qui vient » et d'autres ont dit « Jésus ». Donc vous avez tout dit. Le Messie, étymologiquement, c'est celui qu'on attend, celui qui vient. Et pour nous chrétiens, c'est Jésus. Cette histoire nous est racontée dans l'évangile de Luc, l'histoire de Zacharie et d'Élisabeth. Et Zacharie, lui, va rester muet jusqu'à la naissance de son fils. Jean, le petit Jean, est élevé dans la religion juive et devenu adulte, il s'engage de façon radicale en prêchant dans une région désertique où il annonce la venue du Messie. L'évangile de Marc le décrit physiquement avec des vêtements. Il dit qu'il porte des vêtements en poils de chameau avec une ceinture et puis qu'il mange, il mange quoi ? Des choses un peu bizarres, des sauterelles. On va y venir, il paraît. Des sauterelles et du miel sauvage. Pour accueillir le Messie, il faut se préparer, dit Jean. Et pour cela, il invite à la pratique du baptême d'eau dans le Jourdain. Symbole de purification avec l'idée de mort sous l'eau et l'idée de vie nouvelle hors de l'eau. C'est ainsi que Jean prend le surnom de Jean le baptiseur. Jean le Baptiste, Jean-Baptiste. Beaucoup se convertissent et sont touchés par son appel. Et quand Jean-Baptiste voit Jésus venir vers lui, il reconnaît le Messie et l'annonce. Juste pour clore sur la vie de Jean-Baptiste, une sombre fin. Il est arrêté puis emprisonné pour avoir dénoncé la pratique conjugale douteuse d'Hérode, roi de Judée, et Jean-Baptiste sera finalement décapité, sa tête finissant sur un plateau. Cet épisode est à l'origine de très nombreuses représentations picturales dans les musées. Vous avez peut-être déjà vu des représentations représentant cette scène qui est restée très célèbre. Donc tout ça, c'est dans la Bible, hein. Vous me faites « ah, ah », mais voilà, c'est dans l'évangile de Matthieu. Alors, revenons à notre texte. « Voici l'agneau de Dieu », dit Jean en voyant Jésus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'agneau ? Est-ce que vous avez une idée, les jeunes ?
L'agneau, ça pourrait
peut-être représenter
l'enfant.
L'innocence, l'enfant, oui, pas mal. Alors, vous connaissez sûrement des surnoms animaliers affectueux. On se donne mon lapin, qu'est-ce que vous connaissez encore? Mon petit chat, mon chaton, encore mon poussin. D'autres. Affectueux, j'ai dit, affectueux. Alors, agneau, c'est vrai qu'on l'utilise moins souvent, mais parfois on peut entendre mon agneau. Alors, Jean, en parlant d'agneau de Dieu, fait d'abord référence à un passage du livre du prophète Ésaïe, où le Messie est annoncé en ces mots. Il s'est laissé maltraiter comme un agneau mené à l'abattoir. On l'a arrêté, jugé, mis à mort et enterré. Mais le Seigneur l'a sauvé, celui qui a donné sa vie à la place des autres. Par lui, le Seigneur réalisera son projet. L'agneau rejoint aussi les sacrifices d'agneaux au temple pour le peuple juif. Mais cette fois, l'agneau Jésus se donne en sacrifice une fois pour toutes et pour le monde entier. Enfin, nous retrouvons aussi l'agneau de la libération de la Pâque juive, avec la sortie d'Égypte dans le livre de l'Exode. Jésus comme libérateur des peuples. Et dans le livre de l'Apocalypse, Jésus est qualifié d'agneau de Dieu, combattant les forces du mal, libérant le peuple de Dieu comme agneau vainqueur et victorieux. Vous en avez appris des choses ce matin, hein ? Et on n'en est qu'au premier verset. Alors, rassurez-vous, je surveille la montre. Alors, l'évangéliste, donc on a vu, il y a Jean l'évangéliste, il y a Jean le Baptiste, Jésus, agneau de Dieu, et maintenant la suite, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Qu'est-ce que le péché ? Vous avez une idée ? Les choses mauvaises, ouais. Les erreurs. Alors, le péché, c'est ça, hein, c'est juste. Le péché dans la Bible, c'est transgresser la parole de Dieu. C'est refuser cette parole qui nous est donnée, ne pas la suivre. Le péché, c'est dire non à la présence de Dieu qui se manifeste pour nous. Aujourd'hui, nous disons que le péché, c'est vivre sans Dieu ou loin de lui. Et si on traduit l'origine de ce mot en hébreu, qui est « hatat », il signifie « manquer son but, dévier de sa cible. » Très longtemps, dans la vie de l'Église, le péché a été vu comme des fautes terribles, cause de honte, de perdition, de punition. Mais aujourd'hui, le péché rassemble tout ce qui nous éloigne de Dieu, que cela vienne de nous ou de l'extérieur. Dès qu'un non est prononcé à la présence aimante de Dieu pour nous, nous sommes pécheurs. De même, le péché nous rejoint toutes les fois où la peur est plus forte que la confiance, où le désespoir est plus fort que l'espérance, où la colère est plus forte que la paix. Autant dire qu'il nous arrive assez régulièrement d'être de bons pécheurs. Et c'est une bonne nouvelle, puisque en Jésus-Christ, Jean-Baptiste nous annonce « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Comme l'écrit la lettre de Paul à Timothée, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Ainsi, en Christ qui s'est donné pour nous une fois pour toutes, le péché est vaincu. Son pardon est donné à celui et celle qui croit. Nous sommes aimés gratuitement. Et nous sommes pardonnés pour vivre libres. Dans la suite de notre passage, Jean-Baptiste explique que Jésus est plus important que lui et qu'il est venu l'annoncer en baptisant dans l'eau pour que chacun puisse l'accueillir. Et puis Jean-Baptiste parle du baptême de Jésus. Je relis juste deux petits versets. J'ai vu l'Esprit Saint descendre du ciel comme une colombe et il est resté sur Jésus. Moi, je ne le connaissais pas, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, c'est lui qui m'a dit « Tu verras l'Esprit Saint descendre et rester sur un homme. C'est lui qui baptise par l'Esprit Saint. » Est-ce que vous avez retenu dans ce que je viens de lire les deux sortes de baptême ? Le baptême avec l'eau et l'autre ? Ah oui, Léonore, elle a le texte sous les yeux. Mais vas-y, t'as raison. Le deuxième, c'est lequel ? Jésus baptise avec l'Esprit Saint. Vous savez ce que c'est, les jeunes, le baptême ? Oui. Pour nous, les protestants, c'est un des deux sacrements. Bravo. Et l'autre sacrement ? La Sainte Cène. Très bien. Vous avez tous déjà assisté à un baptême, hein, les jeunes ? Oui, tous. Et vous, en troisième année, pour ceux qui sont en troisième année, vous allez peut-être, pour certains, demander le baptême à Pentecôte. Le baptême, c'est le signe visible de la grâce de Dieu qui, elle, est invisible. Il est l'engagement de vivre avec Dieu et de le suivre du mieux possible. Le baptême est chrétien, il se reconnaît dans toutes les églises, catholiques, orthodoxes, anglicanes, protestantes, évangéliques. Jean-Baptiste baptise dans l'eau. Et Jésus baptise dans l'Esprit Saint. Mais nous, alors, ici au Temple, on baptise dans quoi ? Les deux, très bien. Dans l'Église protestante, nous utilisons de l'eau comme symbole de nouvelle naissance et comme geste visible pour manifester cet amour de Dieu invisible. Mais dans ce sacrement, nous croyons que l'Esprit Saint est présent. Selon la promesse de Jésus-Christ, reçue à la toute fin de l'évangile de Marc, « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » « Je suis avec vous tous les jours, nous dit Jésus, jusqu'à la fin du monde. » Ah, c'est peut-être lui. Dans notre texte, Jean-Baptiste raconte le baptême d'eau qu'il a donné à Jésus, qui le lui avait demandé, et témoigne de l'Esprit qui descend sur lui sous la forme d'une colombe. Alors je voulais reparler de la colombe, puis je me suis dit ça va faire trop long. Donc on ne parle pas de la colombe. « Moi j'ai vu, dit Jean-Baptiste, et j'en suis témoin, cet homme-là est le Fils de Dieu. Voici son témoignage qui a précédé Jésus et l'a annoncé. » Le Messie venu pour enlever le péché du monde, pour notre pardon et notre libération. Enfants de l'Esprit Saint, à nous maintenant d'être les témoins du Christ vivant parmi nous. Il est là et il nous conduit. Amen.